encourageant et ces nouvelles de notre union d'église. Je vous invite à la prière pour notre temps de prédication. C'est vrai qu'aujourd'hui, étant le premier dimanche de vacances, un dimanche de vacances scolaires, nous n'avons pas de prise en charge des enfants de manière formelle. En fait, les deux premiers dimanches des vacances scolaires, il n'y a pas école du dimanche, et le dimanche avant la reprise, il y a la reprise aussi de l'école du dimanche. On me fait signe. Si besoin, les salles sont ouvertes et chauffées, les salles où on prend les enfants d'habitude, ainsi que la garderie. Donc voilà, si besoin, c'est possible d'occuper ces salles. Je vous invite à la prière. Notre Père, merci. Merci parce que, effectivement, tu conduis ton Église et tu conduis tes Églises. Merci parce que ce n'est pas nous qui faisons que l'Église se développe ou perdure dans le temps, mais c'est bien toi. C'est toi aussi qui veilles sur nous, sur notre vie d'Église, et nous voulons toujours nous laisser conduire par ton Esprit, par ta parole que nous voulons maintenant écouter, chercher à comprendre et mettre en pratique. Merci parce que tu agis avec nous par amour, par grâce. Merci parce que nous pouvons être ensemble devant toi et continuer de nous laisser remettre en question et instruire et enseigner par ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Voici un marteau. Est-ce un bon ou un mauvais marteau? Est-ce un bon ou un mauvais marteau? Alors, je vais faire un test pour savoir si c'est un bon ou un mauvais marteau. Je vais faire un test. Alors, j'ai ici une vis à visser dans le morceau de bois. Et je vais utiliser le marteau pour visser cette vis. D'accord? Alors, je vais le faire devant vous. Vous voyez que c'est compliqué. Hein? Alors, donc, j'arrive pas à visser. Donc, c'est un mauvais marteau. Et si je devais mettre une note sur Amazon, je dirais 0 étoile. Je n'arrive pas du tout à visser avec ce marteau. J'ai beau essayer de le manipuler dans tous les sens, je n'y arrive pas. Et donc, c'est un mauvais marteau. Il ne sert à rien. Alors, je sais qu'il y a des spécialistes du bricolage parmi vous. Et vous êtes en train de vous dire certainement, mais il n'a rien compris. Alors, vous reconnaîtrez, alors effectivement, hein, si je raisonne comme ça, j'ai rien compris. Effectivement, ce que je viens de vous faire comme démonstration est totalement absurde. On ne peut pas dire qu'un marteau est un mauvais marteau, car on ne peut pas l'utiliser pour visser des vis. Mais réfléchissons un peu. Pourquoi est-ce que le fait de le tester sur une vis, ce n'est pas la bonne manière d'évaluer le marteau? Pourquoi est-ce que ce n'est pas la bonne manière d'évaluer le marteau? Simplement parce que les marteaux n'ont pas été créés pour visser des vis. Eh bien oui, ce n'est pas leur vocation. Alors, je pourrais peut-être taper dessus, mais voilà, j'aurais peut-être pas le résultat souhaité. Les marteaux n'ont pas été créés pour visser des vis. Ce n'est pas leur vocation. Pour savoir si un marteau est bon ou mauvais, il faut connaître son utilisation. Il faut savoir pourquoi le marteau a été créé. Il faut savoir dans quel but il a été fabriqué. Ce marteau a été fabriqué pour frapper sur des petits éléments afin de les enfoncer. Il a été notamment fabriqué pour enfoncer des clous. Alors j'hésitais à porter un clou, ça ferait un peu trop de bruit sur l'estrade en plus. Donc je pense que vous voyez ce que je veux dire. Il a été créé pour notamment enfoncer des marteaux et des clous. Et si j'arrive à bien enfoncer le clou, eh bien on peut dire que le marteau fait bien son travail. C'est un bon marteau. Alors on peut ensuite évaluer son ergonomie, sa prise en main, sa durée dans le temps, sa solidité, son aspect esthétique, sa solidité. Mais l'essentiel, si on se base sur l'essentiel, si on arrive à enfoncer des clous, on peut dire que c'est relativement un bon marteau. Prenons un autre exemple. Alors, je n'ai pas apporté de machine à laver, mais prenons un autre exemple. Imaginez que je mette ma vaisselle sale dans mon lave-linge. Je retrouverai certainement ma vaisselle abîmée. Et peut-être aussi mon lave-linge. Et il serait malvenu de dire ensuite que c'est un mauvais lave-linge. Non, ce lave-linge n'a pas été fabriqué, créé pour laver la vaisselle. Ce que je veux mettre en évidence, c'est que pour évaluer si un objet est bon ou mauvais, pour évaluer si un objet est bon ou mauvais, il est indispensable de savoir dans quel but il a été fabriqué. On l'évaluera en fonction de son usage. Sans cela, on ne peut pas se prononcer. On ne peut pas se prononcer. Ou alors, on émettra un avis erroné. Prenons maintenant le cas de l'être humain. Le cas de l'être humain. Comment savoir si je suis bon ? Jésus a dit que personne n'est bon si ce n'est Dieu seul. Alors c'est vrai, personne n'est bon si ce n'est Dieu seul. Mais nous pouvons chercher à être bons, nous pouvons toujours tendre vers plus de bonté avec l'aide de Dieu. Mais comment chercher à devenir bon si je ne cherche pas d'abord à savoir pourquoi j'ai été créé? Quelle est notre vocation première sur cette terre? Selon la Bible, notre raison d'être, c'est de glorifier Dieu, c'est-à-dire l'honorer, l'adorer, l'écouter, le servir, l'annoncer, le représenter. Aimer notre prochain fait aussi partie de notre vocation, c'est aussi une manière de glorifier Dieu, mais il s'agit d'aimer notre prochain comme lui nous le demande. Glorifier Dieu, c'est chercher sa gloire à travers notre vie et notre manière de vivre. Il en est de même pour les églises. La vocation des églises est de glorifier Dieu ensemble, dans l'unité, en le proclamant, en cherchant toujours plus à le connaître et à l'honorer. Dans le livre de l'Apocalypse, Jésus s'est adressé à 7 églises en particulier. Il fait le bilan, il les félicite pour leurs points forts, il les reprend lorsqu'elles s'écartent de leur mission. Il fait cela pour leur bien, pour les encourager. Il fait cela afin de leur donner les bons repères, afin qu'ils discernent le bon et le mauvais dans leur vie d'église. Aujourd'hui, je vous propose de lire dans le livre de l'Apocalypse la lettre à l'église de Philadelphie. Nous continuons simplement notre série de prédications sur ce livre. Après avoir lu les 5 premières lettres, nous arrivons à la 6e. Et la bonne nouvelle, c'est que Jésus ne fait que des compliments à cette église. Et ça change par rapport à d'autres fois. Ah, j'ai oublié de prendre la télécommande. Elle y est. Ah, merci, super. Un grand merci. Apocalypse, chapitre 3, versets 7 à 13. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne pourra fermer. Celui qui ferme, et personne ne pourra ouvrir. Je connais tes œuvres. Voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut refermer, parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole sans renier mon nom. Je te donne des membres de la synagogue de Satan qui se prétendent juifs sans l'être et qui mentent. Je les ferai venir se prosterner à tes pieds et reconnaître que je t'ai aimé. Parce que tu as gardé mon ordre de persévérer, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour mettre à l'épreuve les habitants de la terre. Je viens bientôt. Tiens ferme ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Du vainqueur, je ferai un pilier dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus jamais. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu, celui de la ville de mon Dieu, la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, ainsi que mon nom nouveau. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Alors pardon, j'ai pas... On l'a fait, super. Alors c'est vraiment un technicien précieux. Au début de la lettre, Jésus est présenté sous un angle particulier. Ici, Jésus se présente comme le Saint, le véritable, celui qui a les clés, la clé de David. Commençons par les deux premiers termes, Saint et véritable. Que signifie être saint? Pendant longtemps, on a entendu dire que saint, être saint, signifie être séparé ou être mis à part. Il se trouve que cette idée est aujourd'hui un peu remise en question, et peut-être que cette idée se fonde sur une étymologie vraisemblablement erronée. Alors on peut toujours se rattraper en disant que être saint, c'est être mis à part dans le sens être consacré à Dieu, ce qui n'est pas faux. Cela dit, si l'on regarde dans la Bible, et en particulier dans l'Ancien Testament, celui qui est saint, c'est surtout celui qui se tient, qui peut se tenir et qui se tient dans la présence de Dieu. Celui ou ce qui se tient. Les objets qui étaient saints étaient les objets qui pouvaient servir au culte à l'époque. Jésus est parfaitement saint, car il est étroitement lié à Dieu et il est Dieu. C'est le même auteur, Jean, qui a écrit que Jésus est la parole de Dieu qui s'est faite chair. Cette parole était à la fois avec Dieu et elle était Dieu. Jésus est saint car il est avec Dieu et il est Dieu. Il est aussi le véritable. Ce titre met en évidence que Jésus est le seul vrai Dieu, par opposition aux idoles présentes dans l'Empire romain et par opposition aussi à l'empereur qui était divinisé à l'époque romaine. Jésus est le seul vrai Dieu, c'est le véritable. De nos jours, il y a pas mal de confusion autour de la notion de vérité. Aujourd'hui, beaucoup de gens ont tendance à dire que chacun détient une partie de la vérité. Toi, tu crois en Dieu, c'est ta vérité. Moi, je crois autre chose, c'est ma vérité. Et toi, tu crois autre chose, c'est ta vérité. Et finalement, tout le monde détiendrait un morceau de la vérité et personne n'aurait vraiment tort. Et c'est vrai que cette manière de voir les choses paraît tolérante, bienveillante. On ne juge pas. Tout le monde a un bout de la vérité. Une histoire assez connue en Inde illustre cette croyance selon laquelle toutes les religions ne forment qu'une partie de la vérité. Et je crois que j'ai déjà fait allusion à cette histoire, ou peut-être Johan, lors d'une soirée de causerie. Cette histoire met en scène un roi qui essaie de montrer que toutes les religions se valent. Il fait venir des aveugles dans une pièce, puis il fait entrer un éléphant. Alors ça doit être une grande pièce. Ensuite, il demande aux aveugles de décrire l'éléphant, de toucher l'éléphant et de le décrire. Alors, il y a un aveugle qui touche les pattes et il dit que les éléphants ressemblent à des arbres. tronc d'arbre. Un autre aveugle touche la trompe et il dit que les éléphants ressemblent à des serpents. Un autre touche le ventre et il dit que les éléphants ressemblent à des gros ballons. Et avec cette expérience, le roi veut montrer que tous les aveugles voient le même éléphant, mais ils le voient de manière différente. Mais aucun d'entre eux n'a tort. Ils détiennent juste une partie de la vérité. Et cette histoire est parfois racontée pour illustrer que chaque religion ne détient qu'une partie de la vérité et aucune ne peut prétendre détenir la seule vérité. Sauf que ce raisonnement comporte des incohérences. Premièrement, cette histoire présuppose que le roi n'est pas aveugle. Et le roi voit l'ensemble, le roi voit tout. Deuxièmement, ce roi n'étant pas aveugle, prétend lui détenir la vérité. Et oui, lui, il voit tout, donc il a la vérité. Il serait plus éclairé que les autres. Il se placerait au-dessus des aveugles en leur disant que eux ne détiennent qu'une partie de la vérité, mais lui, qui n'est pas aveugle, eh bien, il détient la vérité. Lui qui peut raconter cette histoire. Et finalement, c'est assez prétentieux, en fait. Troisièmement, pour que cette histoire soit plus cohérente, il faudrait que tout le monde soit aveugle, même le roi. Mais si tout le monde est aveugle, même le roi, dans ce cas, qui pourrait dire si tous les aveugles touchent le même éléphant ? Eh oui, si on est aveugle tous. Est-ce que c'est le même éléphant qu'on touche ? Finalement, cette histoire d'éléphant ne montre qu'une chose, c'est que pour que des aveugles sachent à quoi ressemble un éléphant, il faudrait que l'éléphant se présente lui-même à eux. Et selon l'enseignement biblique, tous les hommes sont en quelque sorte aveuglés car l'humanité a tourné le dos à Dieu. Les humains ne peuvent pas véritablement le connaître par eux-mêmes, à moins que Dieu ne se révèle à l'humanité. Et c'est ce qu'il a fait. La Bible nous présente Jésus comme le Dieu saint, le véritable, venu sur terre pour nous présenter Dieu. Il se présente comme la vérité, le saint. Les chrétiens ne sont pas des gens qui détiennent la vérité. Souvent j'entends, oui, vous êtes prétentieux, vous dites que vous détenez la vérité. Non, on ne détient pas la vérité. Seul Dieu détient la vérité. Mais le chrétien est celui qui entend cette vérité et il y croit par la foi. Dans cette lettre à Philadelphie, Jésus est le saint, le véritable. Et il est celui qui détient la clé de David. David, ce grand roi d'Israël. Dans ce début de lettre, il est beaucoup question aussi de clés et surtout de portes. C'est mon deuxième point. La clé et les portes. Dans le Proche-Orient ancien, le personnage qui détient les clés de la ville était celui qui exerçait la plus haute autorité. Lorsque l'on disait que quelqu'un détient les clés, c'était vraiment quelqu'un qui était puissant dans la ville. Et au temps d'Ésaïe, du prophète Ésaïe, la clé de David était le symbole de l'autorité d'un personnage nommé Éliakim. Il était la clé de David. En fait, après le roi, c'était celui qui exerçait la plus haute autorité, la plus haute fonction en Israël. Voilà, donc ce symbole de la clé, c'est un symbole d'autorité, de puissance. Le symbole de la clé est aussi lié à l'image de la porte. Une image, elle aussi, qui nous vient du prophète Ésaïe. Elle est utilisée plusieurs fois dans la lettre. La porte que le Christ ouvre, personne ne pourra la fermer. Et la porte qu'il ferme, personne ne pourra l'ouvrir. Le livre de l'Apocalypse a été écrit dans un contexte de persécution, notamment la persécution de la part des Juifs. Dans le livre des Actes, on assiste à l'ouverture du royaume de Dieu pour les Juifs, pour les Samaritains et pour les païens, pour les non-juifs. Cela est notamment manifesté par le don du Saint-Esprit de manière manifeste au sein des trois catégories de personnes. Jésus ouvre le royaume des cieux à toutes les nations. Cela dit, le peuple qui s'oppose à Jésus, c'est surtout le peuple juif, qui est pourtant le peuple de Jésus. On constate ainsi que le royaume des cieux est ouvert aux non-juifs qui croient, et il est fermé aux juifs qui refusent de croire. Au verset 8, le Christ ouvre une porte pour Philadelphie. Que veut-il dire par là? Si l'on prend en compte le contexte, la porte fait certainement référence à la porte du royaume de Dieu. C'est la Nouvelle Jérusalem mentionnée au verset 12. Cette porte est dans l'église, ou en face, elle est liée à l'église de Philadelphie. Car le Christ se servira du témoignage de cette église pour faire entrer des juifs dans ce royaume. C'est ainsi que l'on peut comprendre le verset 9, où il est question de membres de la synagogue de Satan qui se joindront à cette église. Alors cette mention de la synagogue de Satan peut nous paraître choquante. En fait, il y avait déjà une référence à cela dans la lettre à l'église de Smyrne, au chapitre 2. Il s'agit des juifs qui non seulement refusent de croire en Jésus, mais en plus ils persécutent les chrétiens et ils rendent ainsi service à Satan. Jésus annonce qu'une partie de ces juifs, en tout cas que parmi ces juifs, il y en a qui se joindront à l'église de Philadelphie. Passons maintenant au compliment de Jésus. Tu as peu de puissance, mais tu as gardé ma parole. Tu as persévéré. C'est ce qui ressort dans cette lettre concernant les compliments de Jésus faits à cette église. C'est très intéressant parce que parmi les sept églises, les sept lettres aux églises, les églises riches et puissantes, comme Laodicée ou comme Sardes, reçoivent beaucoup de reproches. L'église de Laodicée, qui est riche, n'a même aucun compliment. En revanche, aux églises pauvres et peu puissantes, comme Smyrne, comme Philadelphie, Jésus ne leur fait aucun reproche. Mais il les encourage et il met en avant leurs qualités. Il ne faut pas tirer de conclusions trop rapides en disant que si l'on est pauvre ou riche, ou pauvre ou faible, on est irréprochable et Dieu nous aime. Non, ce n'est pas comme ça que cela marche. En fait, cela nous apprend simplement que le regard de Dieu est différent du regard humain. Philadelphie a peu de puissance, humainement parlant, mais elle est exemplaire du point de vue de Dieu. Cette église comportait certainement une petite assemblée. Voilà, cette église avec peut-être peu de monde, avec peut-être peu de moyens. Les membres étaient probablement fatigués. C'était peut-être une communauté peu séduisante aux yeux des hommes. On voyait les chrétiens comme des gens à part, des gens marginaux. Philadelphie était une communauté avec des moyens limités, au milieu d'une société attirée par les nouveautés, par les loisirs. En résumé, Philadelphie était une église peu attractive. Pourtant, c'est l'une des seules églises dont le bilan n'est que positif aux yeux de Jésus. Elle a gardé la parole de Dieu. C'est-à-dire qu'elle l'a écoutée, cette parole, elle l'a comprise, mais aussi elle l'a mise en pratique. C'est ce qui compte le plus aux yeux de Dieu pour une église. Garder la parole de Dieu. L'apôtre Paul dira à Timothée de garder le bon dépôt, l'évangile, le message biblique, et le mettre en pratique. Alors il y aurait encore beaucoup de choses à dire sur cette lettre. Je reconnais que je me suis peu attardé sur tous les détails. C'est une invitation aussi à chacun la relire et continuer la méditation. Mais j'aimerais maintenant conclure avec quelques réflexions de conclusion. Cette lettre nous invite à nous méfier de nous-mêmes, à nous méfier de nos propres raisonnements ou nos propres sentiments. Au début de l'Apocalypse, Jésus fait un bilan aux églises. Il se permet de dire si elles sont sur le bon ou sur le mauvais chemin. Seul notre Créateur peut nous discerner, nous aider à discerner le bon ou le mauvais. Les apparences sont trompeuses, et souvent nos raisonnements aussi. D'un point de vue humain, certaines églises peuvent paraître riches, puissantes, dynamiques, vivantes. En revanche, d'autres peuvent paraître pauvres et sans intérêt. Mais là encore, ce n'est pas notre propre regard qui compte, c'est celui de Dieu. Son critère, ce n'est pas avant tout ce qui est visible. Son critère, c'est la fidélité à la parole et la persévérance. Et Jésus nous fait des promesses à travers cette lettre. Verset 10, « Parce que tu as gardé mon ordre de persévérer, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour mettre à l'épreuve les habitants de la terre. » L'heure de la tentation peut être aussi traduite par l'heure de l'épreuve. Effectivement, l'Apocalypse annonce des épreuves de toutes sortes sur la terre. Mais nous sommes déjà dans l'équipe des vainqueurs. Nous sommes déjà dans l'équipe des vainqueurs. C'est pour cela qu'il est question de la couronne des vainqueurs. Tout comme un marteau sert à enfoncer des clous et non des vis, notre vie et notre Église servent à glorifier Dieu et non à se glorifier soi-même. Persévérons dans notre vocation qui est d'adorer le Christ seul, le Saint et le véritable. Amen. Je vous invite à la prière. Notre Père, merci. Merci parce que tu t'es fait connaître à nous, nous qui t'avions tourné le dos. L'humanité t'a tourné le dos, mais tu t'es rendu manifeste. Tu t'es manifesté par les prophètes, par les apôtres. Tu t'es manifesté toi-même dans la personne de Jésus. Merci. Merci parce que sans toi, nous ne pouvons pas connaître, nous ne pouvons pas savoir si nous sommes sur le bon ou le mauvais chemin. Mais tu nous guides par ta parole. Et nous voulons te dire notre foi en toi, en ce qui est révélé dans ta parole. Et nous voulons continuer à chercher à la comprendre, mais aussi à la mettre en pratique. Donne-nous cette persévérance au milieu des épreuves, au milieu des tentations de ce monde, que notre Église puisse t'être agréable et te glorifier. Au nom de Jésus. Amen.